Je terminais ici dans Vaïeshev. Yosef est toujours en prison, suite des accusations de Madame Potiphar. Il est néanmoins dans la prison des princes. Ça veut dire que Monsieur Potiphar, il n'a pas cru un seul instant ce que racontait sa femme, mais qu'il fallait bien qu'il réagisse. Il est bien clair pour tout le monde qu'un esclave qui essaierait de séduire la femme du maître, il ne prend pas le temps de le juger, pas qu'on le tue tout de suite. Et surtout si on met dans une prison, mais pas dans la prison des princes. Donc il est là-bas et il a interprété les rêves du panetier et de les chansons. Et ça s'est réalisé comme il l'avait interprété. Le panetier a été tué, a été pendu, et les chansons a retrouvé son statut. Et Yosef est puni parce qu'il a demandé à les chansons de se souvenir de lui et de rappeler son souvenir, enfin rappeler, en parler à Paro. Puisqu'il lui a expliqué que lui, il a été volé, kidnappé, si vous voulez, quasiment dans le pays des Hébreux. Et même ici, comme il dit, j'ai rien fait de mal. Donc, il n'y a absolument aucune raison que je sois en prison. C'est un drôle d'argument parce que dans un pays comme l'Égypte où c'est un pays où le pharaon est souverain et etc. On peut pas vraiment invoquer des raisons de justice. On l'a mis en prison, on l'a mis en prison. C'est pas. Alors, bien entendu, les chansons, il a oublié, et il a voulu aussi oublier complètement l'engagement qu'il avait pris par rapport à Yosef. Seulement, il va se passer quelque chose qui va l'obliger à se souvenir de quelque chose qu'il voudrait vraiment oublier, mais ça va devenir trop dangereux pour lui de ne pas rappeler ce qu'il savait de Yosef. Donc on nous dit Vahi miketz shnataim yamim ufaro cholem vehine omed alayo. Le Rashbam dit Vahi miketz shnataim yamim shtei shanim shlemot. Et il porte des preuves. En quoi est-ce que c'est important que les 2 années soient pleines, complètes? Que ça change s'il manquait un jour, ou il manquait 2 jours, ou il y avait un jour de plus. Visiblement, ça a l'air d'être très important. Très important, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, dans la Gemara, on dit que, bon, vous avez compris que Yosef va être, ben vous avez compris, vous savez, l'an dernier, en tout cas, que Yosef va être sorti de sa prison, qui va être amené devant Paro. Et Chazal disent que ce jour-là, c'était Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire que le rêve de Paro a eu lieu à Rosh Hashanah. Ça veut donc aussi dire que l'affaire avec Madame Potiphar a aussi eu lieu à Rosh Hashanah, puisqu'il a été ensuite dénoncé et mis en prison à ce moment-là, et on est en train de nous dire que tout ça, c'était 2 années, exactement 2 années. Bon, alors, en quoi est-ce que ça va être important? C'est important de savoir que tout ça se joue à Rosh Hashanah. Alors, à Rosh Hashanah, les choses sont décidées pour l'année. Donc, cette insistance sur le fait que c'était 2 années complètes, de la part du Rashbam, parce que la Torah, elle dit c'était 2 ans, ça pourrait être 2 ans et quelques jours aussi d'après la Torah. Donc c'est le Rashbam qui... Et il n'est pas tout seul, il y a d'autres mefarshim aussi. Et donc on peut, il faut entendre probablement que tout ça, tout ce qui se joue là, se joue effectivement, spécifiquement parce que c'est Rosh Hashanah. Tout commence, tout le basculement de la situation de Yosef, etc. Bien sûr que la trajectoire de Yosef depuis qu'il est parti de chez son, enfin qu'il a été kidnappé et jusqu'au moment où il est en présence de Madame Potiphar, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'Ashgaha. C'est Akadosh s'est occupé de lui, visiblement. Il a voyagé dans des conditions favorables. Bon, il était esclave, mais il n'était pas dans les conditions de transport les plus mauvaises qui soient. Ça aurait pu être bien pire. Et finalement, Akadosh est tellement présent pour lui que tout ce qu'il fait réussit. C'est-à-dire que quand il est chez Potiphar, il a tout de suite la haute main sur la maison entière. Quand il est en prison, c'est à lui que le gardien de la prison, le chef de la prison, confie les clés de la maison, quoi. À la limite, c'est lui qui exerce tout. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent tous que il fait les choses de façon parfaite, évidemment, puisque Hachem est avec lui. Mais le grand tournant, bon, le tournant dans la carrière, si on peut parler de Yosef, c'est bien sûr le moment où il va arriver à être en présence de l'empereur d'Égypte. C'est quelque chose de totalement impensable. Je veux dire, qu'est-ce qu'un Hébreu, quoi, si vous voulez, et entre-temps esclave et tout ce que vous voulez. Comment est-ce qu'il peut se trouver devant Paro? Et donc, quand on dit que ça se passe à Rosh Hashanah, c'est parce que, effectivement, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont là, qui se déroulent à ce moment-là et qui ont une valeur, si vous voulez, pour tout le temps qui s'ouvre à ce moment-là. Donc, ça, c'est probablement la raison pour laquelle le Rashbam met tellement de poids sur ce fait que c'est des années complètes. C'est aussi Shnataim Yamim. Alors, le Rashbam, il dit, si c'était marqué Miketz Shnataim, sans le mot Yamim, Aya Mashma, on aurait entendu que ça voulait dire Shana v'yom echad, comme c'est marqué Ben Shnato. Quand on parle d'un animal, on dit qu'il est Ben Shnato, ça veut dire que il est dans l'année. On l'appelle dans la première année de sa vie. Mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il a 1 an, il est dans. Donc en disant Yamim, on dit clairement, c'est l'année avec tous les jours qui la constituent. Et Paro rêve. Et on nous dit tout de suite enfin, de quoi rêve-t-il? Vehine. Et voici. Omed al-Hayor. Alors, on répète toujours, le mot Vehineh, il indique que quelque chose se passe qu'on n'attendait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à être au-dessus du Nil dans son rêve? On va voir. Vehineh mina yehor olot. Et puis, le rêve, vous le connaissez, premier rêve. cette vache grasse, puis cette vache maigre, et les graisses, et les maigres avalent les graisses, les grasses, et elles n'en deviennent pas grasses pour autant. Et puis ensuite, le même scénario avec des épis de blé. Donc, semble-t-il, deux fois le même rêve. Un dans le monde animal, l'autre dans le monde végétal, si vous voulez. Il y a une règle dans l'Agmara, que dans le rêve, on ne montre pas des choses absolument impossibles, si vous voulez. On montre que quelqu'un peut se déplacer, etc. Mais des choses qui sont contre nature. Alors ici, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire depuis quand les vaches mangent des vaches? À part le fait que les vaches ne sont pas carnivores. Et pourquoi une vache mangerait-elle une vache? Pourquoi un épi mangerait-il un autre épi? Le même se mange pas, a priori. Alors, les commentateurs, là, sur cette question-là, ils disent que ça veut dire que le rêve n'est pas un rêve, mais une prophétie. Donc, ça veut dire que pour eux, pour les Mefarshim qui disent ça, ils pensent que Paro lui-même savait que c'était pas vraiment un rêve, mais qu'il y avait quelque chose de prophétique là-dedans. Il sait qu'on est en train de lui communiquer quelque chose. Et Yosef aussi, quand on lui a raconté la chose, attendez, patientez, Père et Déborah. Quand on lui raconte la chose, Yosef aussi sait très bien qu'il s'agit d'une voix. Ça n'a rien de commun avec les rêves du panetier, des chansons qui concernent leur vie, leur carrière. Mais là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie. Donc, l'interprétation, ça doit être quelque chose de prophétique, quelque chose qui annonce quelque chose. Il y a une annonce qui va prendre des mesures ou quelque chose de ce genre-là. Et Paro, donc, il se réveille entre les deux rêves. Donc, c'est vraiment deux fois le même rêve. Donc, il appelle évidemment les Chartoum et Mitzrayim et tous les Chachamim pour qu'ils lui expliquent son rêve. Et va il s'appelle Paro Lahem et Chalomo. Et il leur raconte son rêve. Vein poter otam, le Paro. Enfin, c'est poter otam, pourquoi est-ce que c'est marqué poter otam, le Paro? C'est en fait le pluriel ici, c'est les rêves. Mais Ein Poter Otam, c'est compliqué puisque on n'a pas mentionné qu'ils étaient, qu'il y avait deux, un rêve et un rêve, et après. Donc, mais personne n'arrivait à l'expliquer. Alors, Rashi explique. Qu'est-ce que ça veut dire que personne ne lui expliquait? Potrim ayuotam, bien sûr que les Chachamim expliquaient le rêve, les rêves. Avalo le paro, ça veut dire shelo aya kolan nichnas beoznav. Ce qu'il disait, ça ne l'entrait pas dans l'oreille, ça ne l'apaisait pas, ça veut dire. Lo aya lo korat ruach de Pitronam. Il lui disait que tu auras cette fille, et puis après ce garçon, etc., mais tu vas les enterrer, les trucs. Il savait, il comprenait que c'était pas ça. Bon, on sait, nous, on sait qu'en réalité, on l'a déjà dit les autres années, mais il faut quand même être bien conscient que c'est pas qu'ils étaient incapables d'interpréter les rêves, c'est qu'ils ne racontaient pas la vérité. Alors, si vous ne leur donnez pas les éléments pour interpréter le rêve, ils n'ont aucune chance d'y arriver. Qu'est-ce qu'il faisait comme différence? C'est que quand il racontait le rêve, il ne leur racontait pas que dans son rêve, il était au-dessus d'une île. Il leur disait, c'est, j'étais au bord d'une île. Et on avait expliqué que la raison pour laquelle il raconte pas la vérité, c'est que le Nil est une idole. C'est l'idole nourricière de l'Égypte. Donc, Pharaon, c'était aussi une idole. Il était aussi adoré, il était un dieu égyptien. Mais il y a une hiérarchie des dieux. Et Pharaon, il avait un problème. Il se demandait, est-ce que finalement, je ne suis que l'intendant qui gère la richesse produite par le Nil, mais le nourricier, c'est le Nil, c'est pas moi. Donc peut-être que je suis une divinité inférieure au Nil. Et lui, ce qu'il voulait, dans son rêve, il se voyait au-dessus du Nil. Il se voyait comme une divinité supérieure au Nil. C'était ça que il voulait, ne pas être simplement l'intendance qui gère la richesse produite par le Nil. Il voulait être une divinité pour soi au-dessus de ce problème. Alors évidemment, si on ne leur raconte pas ce qui était d'une certaine manière l'essentiel de son rêve, il n'avait aucune chance, les Khartoumim. Il ne faut pas en déduire que les Khartoumim étaient mauvais. C'est très bon, seulement si on ne vous donne pas les éléments. Le problème, c'est qu'à Youssef non plus, il n'a pas raconté la vérité. Seulement, comme Yosef, il n'a pas interprété le rêve lui-même d'après ce que Paro lui a dit, mais qu'il était inspiré par Hachem pour interpréter le rêve de Paro, Yosef, il a interprété le rêve de Paro tel qu'il a été rêvé. Et dans l'interprétation de Yosef, Paro se retrouve au-dessus du Nil. Alors Yosef lui explique, et donc Yosef lui dit, d'abord il faut raconter qu'on a cherché, on a sorti Yosef. Bon, Yosef, il n'était pas là. Yosef, il était au fond de son trou. D'accord? Ça veut dire, il est en prison. Et dans cette prison, il a donc interprété les rêves de les chansons, le rêve de les chansons. Et quand Paro se met en colère, c'est marqué qu'il s'est mis en colère, Katsaf, au verset Yud, Paro Katsaf non, mais ça, c'est les chansons qui veulent raconter. Mais Paro s'est mis en colère contre eux parce que il lui expliquait rien du tout. Et ça allait mal. Et les chansons, il s'est dit, si jamais Paro entend qu'il existe quelqu'un qui interprète les rêves et qui les interprète bien, et moi, je n'ai pas dit que je le connaissais et que c'est à moi qu'il avait interprété, je suis perdu. Donc il s'est dit, même si j'aime pas beaucoup ce Yosef, même si j'ai pas envie du tout de lui rendre service, pour ma peau, j'ai avantage à dire ce que je sais. Alors, il va dire, il leur dit, il dit, mais bien sûr, comme il présente Yosef, il dit à Paro, Van Chalmash, le Pantier et moi, on était en prison et nous, on a rêvé chacun son rêve et aussi l'interprétation du rêve de l'autre. Et il y avait là-bas Nahar Ivri Eved Sarat Abachim. Il a vraiment essayé de dire tout ce qu'on pouvait dire de mal de Yosef. Mais on lui a raconté et il nous a expliqué, il a interprété les rêves et les choses se sont déroulées comme il les avait interprétées. Alors, Paro, il a Vaishlach Paro, Vaikra et Yosef. Donc, Paro a envoyé prendre Yosef. On l'a sorti Minabor. On l'a sorti, le bor, c'est un trou. On l'a sorti du trou. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que la prison, ça se dit Bet Sarakabachim ou Bet Asoar, pardon. Bet Asoar. Donc c'est un bayit, c'est pas un trou. Et ici, dans tout ce texte, plusieurs fois, on va parler de la prison en tant que bayit. Et là, maintenant, tout d'un coup, on dit qu'il était dans un trou. Il faut savoir.
Donc c'est la prison des princes.
Le trou, oui, alors, la prison, c'est la prison des princes. Et lui, il était aussi dans cette prison-là, mais il y avait un trou. Ça veut dire que, vraisemblablement, dans cette prison, il y avait des cellules, une étoile, deux étoiles, je ne sais pas combien d'étoiles dans la prison. Et les princes étaient certainement dans des chambres avec plus d'étoiles. Et lui, il était tout en bas, quand même. Il était dans la prison des princes, mais d'une certaine manière, il était dans le trou. Mais le fait qu'on dise Baït, c'est que, en réalité, pour Yosef, où qu'il ait été dans cette prison, c'était un baït. Pourquoi? Parce que le mot baït veut dire que c'est un endroit important, d'une certaine importance. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la faute de la mezouza. On va mettre une mezouza sur une maison, mais il y a 10 conditions pour devoir mettre une mezouza sur une maison, et une des conditions, c'est que la maison, ce soit un bayit shel kavod. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mezouza sur la salle de bain, par exemple, il n'y a pas de mezouza sur les entrepôts, etc. Parce que ce n'est pas un bayit shel kavod, ce n'est pas une maison enfin, où on reçoit un certain kavod. Mais lui, comme il était avec Hachem, si vous voulez, où qu'il ait été, c'était toujours un kavod pour lui. Donc on a sorti Yosef de son trou. Bon, alors on l'a. Je ne sais pas pourquoi on nous explique ça. Sivlotav. On l'a rasé, on a changé ses vêtements. Ben, il n'allait pas venir en tenue orange devant Paro, quoi. C'est pas clair que.
C'était recherché.
Et alors le problème, c'est que c'était Rosh Hashanah, donc est-ce qu'il avait le droit c'est pas que lui qui s'est rasé, on l'a rasé et on lui a pas demandé son avis, donc c'est moutard, il a rien fait là-dedans. Et bon, Veichalev Simlotav, changer les vêtements. Et puis, il n'est pas allé à pied chez Paro. Il y avait sûrement un système de comment ça, des très très grandes voitures pour transporter les gens qui allaient chez Paro. Il était souvent dans la voiture, mais c'est pas lui qui conduisait. C'est pas, il n'a pas demandé son avis. Voilà. Donc il est à Il est là, Rosh Hashanah, il est devant Paro. Personne ne peut me l'interpréter. J'ai entendu que toi, tu tishma chalom liftor oto. Littéralement, ça veut dire tu écoutes un rêve afin ou pour l'interpréter. Rashi dit tishma chalom liftor oto, ta'azin v'tavin chalom liftor oto. Tu écoutes et tu comprends un rêve. Bina, c'est la, le, bin, la, le Havin, Ça vient de Bina. Bina, c'est être capable de comprendre d'avoir mitor d'avoir. C'est-à-dire quelqu'un, si vous voulez, il y a deux degrés. Il y a un degré qui s'appelle la chokhma, la sagesse. Ça, c'est les yédiot, le savoir, les informations, les éléments. Ceux-là, on a besoin qu'on nous les donne. On ne peut pas les inventer. Mais ensuite, en fonction de ce qu'on nous a donné, être capable d'en faire quelque chose, être capable donc d'en déduire quelque chose qu'on ne nous a pas donné, c'est-à-dire de construire, Bina, c'est la même chose que Boné, c'est-à-dire de construire une théorie à partir des éléments qu'on vous a donnés. Ça, c'est la Bina. Et donc, j'ai entendu que toi, tu entends, tu écoutes suffisamment bien les rêves, tu les comprends et tu arrives à construire à partir des éléments du rêve. Ce qui va interpréter le rêve. Et tu interprètes le rêve. On voit ici quelque chose de classique sur la notion de rêve. C'est que quand on doit interpréter un rêve, il ne s'agit pas du tout d'interpréter la totalité du rêve. Enfin, raconter le rêve, c'est déjà lui donner une interprétation. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'il y a toujours des éléments complètement étrangers, qui n'ont rien à voir, qui sont comme des déchets dans un rêve. Et le travail sur un rêve, c'est d'extraire du rêve certains éléments avec lesquels on peut construire un récit qui va être l'interprétation du rêve. C'est pour ça que on dit que si quelqu'un a rêvé que il a besoin qu'on lui interprète son rêve, il faut pas qu'il raconte le rêve. Parce qu'en le racontant, il a déjà donné une forme à ce rêve. Il faut qu'il dise, dans mon rêve, on parlait de vaches, on parlait de vaches grasses, on parlait de vaches maigres. Voilà, il y avait des éléments comme ça. Et celui qui entend le rêve, il comprend, il va construire à partir des éléments qu'il va choisir. Et donc, si ça se trouve, il peut construire une interprétation du rêve avec très peu des éléments et de jeter tout le reste comme étant des déchets, des choses dont on n'a pas besoin. Et c'est pour ça que il faut avoir quelqu'un de bonne volonté pour vouloir interpréter le rêve favorablement. Razal disent que Akol Holer Achar HaPe, c'est-à-dire dans l'interprétation d'un rêve, tout va d'après la bouche, tout va d'après la façon dont on l'interprète, c'est-à-dire quels éléments j'ai choisis pour construire le narratif, un certain narratif à partir de ce rêve. Donc c'est ça que Paro dit à Yosef, je sais que toi tu es capable de faire cela. Alors Yosef a tout de suite remis les pendules à l'heure. Il lui a dit, Biladai, non, non, c'est pas moi. Biladai, Elohim yane Shlom Paro. C'est Elohim qui répondra de tel, qui redonnera son shalom à Paro. Et Rashi dit, Biladai, eina chokhma sheli. Ça n'est pas une chokhma que j'ai. Et là, Elohim yane. Elohim va répondre. Iten ania befi. C'est lui qui va mettre dans ma bouche de quoi te répondre. L'ishlom paro. Pour apaiser, pour remettre paro dans son état de shalom.
On peut demander quelque chose?
D'abord, c'est déjà fait. Ouais, tu peux y aller.
Est-ce que Paro pouvait comprendre ce que c'est Elohim? Il avait une
Oui.
connaissance et...
Oui, le mot Elohim, probablement, il s'entend. On utilise Elohim dans la version Elohim Aherim aussi. Donc, le mot Elohim, dans sa version profane, si vous voulez, ça désigne tous les dieux. Et lui, c'est sûr qu'en Égypte, on avait une notion de ce que c'est qu'un dieu. Alors, lui, il parle de. Yosef aurait peut-être dû lui dire Elokai. Mon Dieu va répondre. Mais bon, il lui a répondu, Elohim, c'est, tu comprends bien, c'est le mien, c'est peut-être pas le tien, mais non, non, il comprend, il sait de quoi ça parle. Ce que Paro va dire à l'époque de Moshe, quand Moshe va lui dire qu'Hachem a ordonné que tu laisses partir les Bnei Israël, il dit, Hachem, je connais pas, j'ai vérifié dans l'ouzou des dieux, il figure pas. Mais Elohim, enfin, dans la version profane d'Elohim, il connaît. Le Sforno, justement, il fait la différence. Le Sforno, il dit Tishma chalom liftor oto, shetavin inyana chalom liftor oto kefi chochmat apitaron. Et Paro, il lui a dit, je sais que tu connais l'interprétation des rêves de Freud, donc tu vas pouvoir expliquer mon rêve comme il faut. Velo tiftor be mikre. Tu vas pas dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que Yosef lui répond, pas du tout. Biladai. Afal pi she'amarta upoter enoto. Keilu ani yachid bezot ha-chokhma, comme si j'étais comme tes interprètes, sauf que moi j'ai lu un chapitre de plus, quoi. C'est pas du tout ça. Ani choshev shiyesh bli safek poter biladai. Il n'y a aucun doute que ça n'est pas moi qui vais interpréter. Elohim Yahane, c'est-à-dire, dit le Sforno, Elohim Yahane, Yahaseh She'ahaneh bepitroni et Shlom Paro. Davar She'yeh Shalom Paro She'achalomot Olchim Acharapeh. C'est-à-dire, c'est Hachem qui va faire, enfin c'est lui dit Elohim, c'est Elohim qui va faire en sorte que ce que je vais dire va t'apaiser, va te redonner ton shalom. OK. Donc, oui.
Présence d'un chien dans sa bouche, il n'est plus à un moment donné performé en disant au maître chanson de ne pas oublier qu'il est placé avant un chien.
On peut poser la question comme tu la poses, ou bien on peut dire, la preuve c'est qu'on ne comprend pas comment il a pu poser une question pareille, c'est qu'il a pris 2 ans de plus. Bon, il a pris 2 ans de rade, de tôle, parce qu'il a posé cette question. Donc ça veut dire, oui, pour lui, au niveau où il est, nous on aurait tout à fait le droit de dire à les chansons, tu vas côtoyer Paro, essaie de dire quelque chose pour me sortir de ce trou-là. Il va lui dire pour me sortir de ce baït. Voilà. Mais bon. Bon, ça nous. Mais lui, Yosef, au niveau où il est, avec tout ce quand même, pense que pour rendre la question encore un peu plus dure, avec toute la Hashgaha qu'il a vue depuis le moment où, bon, bien sûr, il est dans une mauvaise position, il est esclave, il est loin de la maison de ses parents, etc. Mais il voit bien que à tout instant, à quand je me avec lui, quoi. Comment est-ce que c'est possible qu'effectivement il se soit allé à lui dire, mais on peut très bien penser que il s'est dit, ben, c'est pas en compte sur lui. À la limite, c'est comme s'il lui avait dit, n'oublie, ne fais pas exprès d'oublier, quoi. Bon, ça veut dire, parce que c'est marqué à la fin de la partie dernière que les chansons, il a eu tendance à oublier, mais il a voulu oublier. C'est ça qu'il lui a demandé de pas le faire, de ne pas faire. Mais on n'a même pas le droit d'exprimer quand on a une relation, en tout cas, de proximité telle avec Hachem, on n'a pas le droit de formuler les choses de telle sorte qu'on pourrait penser qu'il comptait sur lui. Il comptait peut-être même pas du tout sur lui, il comptait seulement qu'il ne l'empêche pas de, enfin, ne m'oublie pas volontairement, quoi. On voit très bien que il a résisté, mais quand c'était, il y allait de sa peau, il s'est dit, OK, je suis obligé. J'ai pas envie de lui rendre service, mais je me rends service à moi-même. Et alors, vous voyez, Vaïdaver Paro El Yosef, Bachalomi, Hineni, Omed, Al Sfatay Or. Il lui dit, dans mon rêve, j'étais au bord du Nil. Évidemment, c'est parce qu'il a rêvé. Alors, Yosef répond, on passe au 25, Kafré, Voyomer Yosef el Paro, Chalom Paro Echadu. C'est-à-dire, tu m'as fait le récit de deux rêves, en vérité, il n'y a qu'un seul rêve. Seulement, et ta chère Alekim Mosé guide le Paro, parce que ce que Hachem va faire, il va le faire immédiatement, donc il te dit que ça va se, il a mis l'accent, c'est urgent. Et il interprète que c'est des années d'abondance, des années de famine, etc. Il est donc Shevashanim Baot. Il y a 7 ans qui viennent de grande abondance en Égypte. Puis ensuite, il va y avoir 7 années de famine. Et la famine va faire oublier complètement l'abondance. Ça, les vaches grasses sont absorbées par les maigres et on voit aucune trace. Et alors, jusque, voilà, à la fin du passage Lamed Bet, où Yosef a dit, Ve'al Ishanot Achalom El Paro Pa'amaim, le fait que le rêve s'est répété, Hachem a envoyé deux fois le rêve, en quelque sorte, c'est qu'il n'a qu'un adavar mi'ma'ilokim, ou mi'ma'er ha'ilokim la'asoto, c'est que c'est urgent. Fin de l'interprétation du rêve, en fait. Voilà, c'est terminé. Normalement, Yosef aurait dû se taire. On t'a invité pour interpréter le rêve. Fin de l'interprétation du rêve. Et Yosef, il a une chutzpah énorme. Vous imaginez, on ne peut pas parler devant ces gens si on n'a pas été invité à parler. Et maintenant, Yosef, il va lui donner des conseils. Alors, normalement, il aurait dû se faire rabrouer, virer complètement. On ne t'a pas demandé de tes conseils. On va faire ça tout seul. Seulement, Paro a compris qu'il était en train de lui dire quelque chose de qui est une vraie prophétie. Pardon?
Discipline.
Hein?
Discipline.
Oui. Et alors, il lui dit tout de suite, Yare Paro ish navon v'chacham, vishitehu al eretz Mitzrayim. Il faut que tu nommes quelqu'un. Quelqu'un qui soit Navon et Chacham. De nouveau, vous voyez, Navon, c'est comme le Binyan et Chacham. Et le grand problème, c'est remarqué Chaim Kanievski, c'est que dans toute la Torah, c'est toujours dit dans l'ordre Chacham v'Navon. D'abord Chacham et après Navon. D'abord la Chokhma, après la Bina. Ici, c'est inversé. Pourquoi? Parce que la Chochma, il vient de la lui donner. La Chochma, tu l'as maintenant. Le Navon, ce qui reste à faire, c'est mettre en œuvre de quoi faire face à cette Chochma que je t'ai donnée. La Chochma, c'est, tu dois savoir, il y a immédiatement 7 années d'abondance qui sont suivies de cette année d'une famine terrible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, il faut construire une solution qui va permettre de faire face à ce que je viens de te dire. Donc, on peut dire d'abord Navon, et ensuite, celui qui aura été nommé pour faire ça, il va rester au pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. Et donc, à ce moment-là, il devra de nouveau avoir de la chokhma pour pouvoir savoir comment faire dans d'autres situations, ce qu'il aura sur sur le problème du corona, tu sais comment faire, d'accord? Mais après, il faudra avoir de la sagesse pour savoir comment faire la guerre, quoi. C'est deux choses différentes. Et donc, et il dit qu'il faudra rassembler toute la nourriture pendant ces années d'abondance. Et on va rassembler toute cette nourriture tachat yad paro dans les villes et on va les faire garder pour que personne puisse les voler. Et ça va être cette nourriture qu'on a mise de côté. Ben, elle va servir pour nourrir le pays pendant les années de famine. Alors, Vayita va davar beene paro. La chose a bien plu à Paro, ou beene kolavadav, et aussi aux yeux de tous les serviteurs. Alors, Paro a dit à ses serviteurs, Animsa kaze ish asher ruach Elohim, oh, est-ce qu'on peut trouver un autre homme qui a l'esprit d'Elohim en lui, quoi. Donc, Paro a dit à Yosef, après qu'Elohim t'ait dit tout ça, n'y a personne qui est Navon et Chacham comme toi. Donc, c'est toi qui seras Albeti, Val Picha Ishak Kol Ami, Rakakiseg Dalmimek. Et voilà, tu m'as rendu le service que j'attendais. Personne en Égypte ne bougera le petit doigt sans ta permission. C'est toi qui vas gérer la richesse du Nil, parce que cette abondance, elle viendra du Nil. Et mon trône sera juste au-dessus. Il n'y aura rien d'autre au-dessus de toi que moi. Et du coup, moi, je suis débarrassé de toutes ces questions d'intendance. Et on les confie à quelqu'un comme toi, d'accord, t'en connais un long bout, mais t'es jamais qu'un étranger et un esclave. Il est clair que, sachant ce que Yosef leur a dit, Pharaon ne pouvait pas nommer un Égyptien pour gérer tout ça. Parce que ce serait lui donner tellement de pouvoir que celui-là, quand il veut, il dépose Pharaon. Yosef, il avait les clés de toute l'économie égyptienne. Personne n'avait à manger sans lui. Et en plus, il a tout ramassé pour Pharaon. Là, je ne sais pas si les fameux Avadav de Pharaon, ils n'ont peut-être pas compris ce que ça voulait dire pour eux. D'accord? Parce que le Pharaon auquel Yosef parle, il est empereur d'Égypte, mais il y a toutes sortes de nobles, il y a des ducs, il y a des comtes, il y a tout ce que vous voulez, qui ont des propriétés, qui ont des gens, etc., qui ont des villes, etc. Mais avec le système de Pharaon, le système de Yosef, tout ce qui va être produit va être soumis à un impôt et tout va être mis de côté, non pas, ça va être dans les villes, peut-être même dans leur propre ville, mais ça sera fermé à clé et la clé sera chez Paro, c'est-à-dire chez Yosef. Et donc ces gens-là, ils vont se retrouver complètement nus quand la famine fut venue, ben, ils étaient tout nus. Ils ont dû se vendre eux-mêmes. Ils sont devenus esclaves de Pharaon. Parce que c'était seulement comme ça qu'ils étaient nourris. Hein, je pense qu'ils ne l'ont pas vu venir. Sinon, je ne pense pas qu'ils auraient si facilement. Ben, il n'y avait pas de solution, peut-être, mais. Ils n'étaient certainement pas contents. Et ça va contribuer justement à cette révolte, disons, des nobles égyptiens à l'époque de Moshe Rabbeinu. On avait déjà dit, vous vous souvenez probablement, qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, et un peu plus tard, quand, c'était l'époque de Moshe Rabbeinu, mais quand Paro, quand ils ont commencé à mettre les Bnei Israël en esclavage, et que les gens voulaient les faire souffrir, etc., Paro, a priori, n'était pas d'accord. Parce que Paro, il savait combien l'Égypte était redevable à la famille de Yosef. On ne pouvait pas maintenant, disons, torturer les descendants, la famille élargie de Yosef. Mais les nobles lui ont dit, mais si tu ne fais pas ça, nous, on te dégomme. Et il a pensé, il a cru qu'il pouvait passer outre. Mais ils l'ont dégommé. Il est revenu à quatre pattes. Et les nobles vérifiaient qu'il faisait vraiment ce qu'il disait. Et il le soupçonnait sans, toujours d'avoir Akaratatov, d'avoir un certain sentiment de reconnaissance à l'égard de la famille de Yosef. Qui les empêchait d'être aussi mauvais que les nobles, qui eux en voulaient probablement beaucoup à Yosef, parce que c'est Yosef qui les a terriblement appauvris. Je pense qu'après ils ont repris du poil de la bête, mais à un moment donné ils étaient quand même esclaves. C'est ce qu'on va voir dans le texte plus bas. Et donc voilà, Yosef qui arrive, il est vice-roi d'Égypte, en fait. Il lui a répété encore une fois, Pharaon répète à Yosef, personne ne bougera ni une main ni un pied dans tout le pays d'Égypte sans ton accord. Et ensuite, il lui a changé son nom, Tsofnath-Paner. Et puis, il lui a donné la Osnat Bat Potiphéra Kohen On Leisha. Donc, il l'a mariée avec une certaine Osnat, la fille de Potiphar, la fille de du maître chez lequel il avait atterri en premier. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce verset. Pourquoi est-ce qu'on lui a changé son nom? Il pouvait dire comment il s'appelle, il s'appelait. J'ai vu chez Abraham Kanievski qui disait que je crois que c'est un midrash qui dit qu'il fallait changer son nom Parce que sinon, ses frères, s'il avait, il se serait demandé comment ça se fait que ce type-là s'appelle Yosef, et les frères l'auraient peut-être reconnu avant. Donc maintenant, avec un autre nom et tout le déguisement qu'il avait comme vice-roi, ils ne l'ont pas reconnu. Donc il fallait qu'il change de nom. Ensuite, c'est la fille de Potiphar. Potiphar, quand il a été présenté au début de la paracha dernière, comme le maître de, comme le maître de Yosef, et Yosef était son esclave, il est Saris, c'est un eunuque. Et comme toujours, les grands rois de l'époque, là-bas, leurs serviteurs, les gens qui étaient éventuellement capables d'avoir accès au harem, ou je sais pas quoi, ou pour d'autres raisons peut-être, ils étaient tous des eunuques. Donc, il n'avait pas de fille. Et donc, Madame Potiphar non plus, a priori, si elle était seulement sa femme. Seulement, cette fille-là, elle était sa fille adoptive. Donc, du coup, quand on traite ce problème-là, on traite de tous les problèmes des enfants adoptifs. Est-ce que les enfants adoptifs peuvent appeler leurs parents, papa, maman, comment on les présente dans une ktouba ou dans un document, etc., halakhiquement? Bon, ça c'est le retombé halakhique de cette histoire. Mais bon, elle est la fille adoptive des Potiphar, mais qui elle est? Dans le Midrash disent que Osnat, c'est en vérité la fille de Dina et de Shrem. Donc, quand Shrem a violé Dina, en fait, il l'a mise enceinte. Et elle a eu une fille, qui s'appelle Osnat. Et que Yaakov a Et il lui a donné une amulette pour la protéger. Elle s'est retrouvée en Égypte. Certains disent que Yaakov ne voulait pas la trace de Shrem dans la famille, quoi. Donc, bon, c'est tout un problème. Pour ça, il l'a quand même. Elle s'est retrouvée fille adoptive chez des gens très bien placés, tout ce que vous voulez. Mais enfin, bon, elle a quand même été. C'est compliqué, quoi. Et donc, si c'est comme ça, alors Yosef a donc épousé sa nièce, la fille de sa sœur. Tout à fait permis, on peut épouser sa nièce. On ne peut pas épouser sa tante, mais sa nièce, on peut épouser. Là, en plus, on nous dit, bon, il a 30 ans, hein, c'est pas mal comme carrière, vice-roi d'Égypte à 30 ans, bon, sans avoir fait aucune grande école. Donc, on nous raconte tout ce qui a entouré sa nomination et son rôle dans l'économie égyptienne. Et puis la dégradation, effectivement, dans les années de famine, au début, parce qu'il n'y a eu que il n'y a eu que le début, parce qu'après, quand Yaakov va descendre en Égypte, la famine va s'arrêter par le mérite de Yaakov. Mais la famine, elle a frappé la terre de Canaan, l'Eretz Israël aussi. Et donc, chez Yaakov, il n'y avait pas non plus à manger. Il avait des problèmes. Donc, il a dit à ses fils, il a dit, j'ai entendu que qu'en Égypte, il y a Shever. Il y a un petit problème dans ce verset, parce que le passage qui dit Vayar Yaakov Yesh Shever Bemitzrayim. Yaakov a vu. Rashi reprend tout de suite, il dit, mais Echan Ra'a, où est-ce qu'il a vu? Il n'a rien vu. Il n'y était pas là-bas. Donc, Ushama, il a entendu. Donc, le texte aurait dû dire, Ine Shamati. Pourquoi c'est marqué Vaya? Ça veut dire que, dit Rashi, Vaya, ça veut dire Ra'a baspaklaria shel kodesh, she'adayen yeshlo sever b'Mitzrayim, velo haita nevoa mamach, lo dio b'ferush, sheze yosef. C'est-à-dire, c'est pas une vraie prophétie, parce que une vraie prophétie lui aurait dit que c'était Yosef qui était au pouvoir. Donc, il a eu une information partielle, si vous voulez, par nevoa. Par le ciel, oui, par nos voix. Donc, sur le fait que, voilà, on peut acheter à manger en Égypte. Alors, c'est assez marrant parce que Jacob leur fait des reproches, il dit à ses fils, Lama titraou, ça veut dire pourquoi est-ce que vous vous montrez devant les bnei Ishmaël et les bnei Esav, kilou atem Ça veut dire ils ont caché qu'ils étaient affamés et ils se montraient par l'extérieur devant les goïms, ils se montraient comme s'ils étaient rassasiés. Et Jacob leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Yalaem, tu vois? Alors, en vérité, à ce moment-là, ils avaient encore à manger. En fait, donc pourquoi est-ce que vous parlez, vous montrez? Mais puis, Acherim Shamati, Krisha, Lamatiyu Krushim, pourquoi est-ce que vous allez devenir maigrichon avec cette famine? Et donc, allez en Égypte et achetez de l'argent, achetez à manger, achetez du blé. Comme ça, on ne mourra pas. Et ils sont descendus à 10. Pourquoi ils sont 10? Parce que Binyamin n'est pas descendu avec eux. Yaakov n'a pas voulu envoyer Binyamin parce que comme Rachel est Niftéret en chemin et que Yosef a été enlevé, il était dévoré, c'est ce qu'il pense, en chemin, c'est-à-dire loin de la maison, il pense qu'il y a une certaine faiblesse par rapport au chemin dans la descendance de Rachel et donc il veut pas y a... Il n'envoie pas Binyamin en chemin. Donc, ils sont 10.
Pourquoi est-ce
Pourquoi est-ce que vous paradez? Ou bien on dit qu'ils avaient encore à manger, donc les autres, vous avez vous et les autres n'ont pas. Pourquoi est-ce que vous montrez que vous avez? Ou bien le contraire, ça veut dire on n'a plus à manger, pourquoi vous faites comme si on avait à manger? Soyez réaliste, mais n'allez pas provoquer la jalousie, l'envie, etc. chez les autres. Alors, ils sont allés là-bas en Égypte, ils sont arrivés là-bas. Il y avait foule de monde, évidemment, qui venait à manger, acheter à manger en Égypte. Alors, c'est pas dit ici directement, mais quand ils sont descendus en Égypte, ils se sont dit, on va en Égypte, Yosef, on l'a envoyé esclave en Égypte. Ils avaient quand même un peu une mauvaise conscience. Ils se sont dit, on va le chercher. On va rechercher Yosef parmi les esclaves en Égypte. Et dans leur recherche, ils sont entrés chacun par une autre porte de l'Égypte, quoi. Ils sont entrés en Égypte par 10 portes différentes. Mais Yosef, il a compris qu'ils vont venir chercher à manger. Et donc, il voulait les repérer. Donc, dans le Midrash, il y a un système de celui qui voulait acheter à manger, il fallait qu'il s'inscrive, il fallait qu'il donne son nom, le nom de son père, le nom de son grand-père, et il fallait qu'il montre patte blanche, etc. Et comme ça lui permettait de surveiller exactement qui est-ce qui entre, qui est-ce qui sort en Égypte. Donc il avait un système très très précis, très très précis de surveillance des entrées et des sorties en Égypte. Donc il voulait attraper. Et donc évidemment, il a été averti. Il y avait dix frères là, qui avaient l'air d'entrer, qui sont entrés par des portes différentes. Et donc, voilà, quand on arrivait devant Yosef, il fallait se prosterner devant lui. Et au moment où ils se sont prosternés, il les a bien reconnus. Mais ils ne l'ont pas reconnu et lui, il ne s'est pas dévoilé. Et au contraire, il leur a parlé durement. Il leur a demandé, Maïn Batem, d'où venez-vous? Ils ont dit, d'Eretz Kenan, pour acheter, on est venu pour acheter à manger. Donc, et le passage répète, Yosef les a bien reconnus, eux n'ont pas reconnu. Et ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait quitté un très jeune homme. Et maintenant, d'abord, il a 30 ans, ils l'ont quitté qu'il avait 17 ans. Et d'une part, et deuxièmement, il était probablement habillé comme un roi égyptien. Et quand vous ne pensez pas qu'il cherchait un esclave, il ne cherchait pas le roi, ils ne pouvaient pas penser que leur frère était roi en Égypte. Et alors Yosef, à ce moment-là, s'est souvenu de ses rêves. Des rêves qu'il avait rêvés en les concernant. Donc eux, ils ne l'ont pas reconnu, lui, il les a reconnus. Rachid dit, s'est souvenu du rêve qu'il avait rêvé les concernant. Rachid dit, le rêve qu'il avait eu les concernant, Aleem, Veyada, Shenit Kaimu, il a compris que les rêves s'étaient réalisés parce que ses frères se sont prosternés devant lui. C'est ce qu'il avait rêvé. Alors du coup, il leur a dit, vous êtes des espions et vous êtes venus voir les faiblesses de l'Égypte, voir par quel côté il faut entrer en Égypte. C'est pour ça que vous êtes entrés par toutes les portes de l'Égypte, pour voir quelle était la faiblesse du pays, pour le conquérir, dit Rachid. Eux, ils ont dit bien sûr que non. L'eau a donné, pas du tout. Mon seigneur, tes serviteurs sont venus acheter à manger. Et puis ils ont commencé, comme ils ont été un peu désarçonnés, ils ont commencé à parler. Ils ont dit, on est tous des enfants d'un même père, mais on est sérieux, on peut nous faire confiance. Nous ne sommes pas des espions. Alors Youssef leur a dit, pas du tout, vous êtes vraiment des espions, vous êtes venus voir les faiblesses de l'Égypte. Alors du coup, ils ont commencé à parler un peu plus. Ils ont dit, voilà, on était 12 frères, toujours en mettant, tes serviteurs étaient 12 frères, fils d'un même père. On habite en Eretz Kenan et voilà, le plus jeune d'entre nous est avec notre père aujourd'hui et il y en a un qui n'est pas là. Alors Yosef leur a dit, c'est ce que j'ai dit, vous êtes des espions. Et vous avez tout un discours que vous avez déjà bien rodé, etc. On va voir, par la vie de Paro, je jure que si vous ne vous en tirerez pas, vous ne vous en tirerez que si vous revenez avec votre petit frère ici. Envoyez l'un d'entre vous qu'il amène votre frère. Et vous, vous serez prisonnier ici. Et on va voir si ce que vous dites est vrai. Et si c'est pas vrai, si vous faites pas ça, alors c'est la preuve que vous êtes des espions. Et il les a mis aux arrêts 3 jours. Et au bout de 3 jours, il leur a dit, on va faire comme ça. Vous allez faire ça et vous vivrez. Moi, Elohim, je le crains. Ah, Elohim, je le crains. C'est-à-dire que ça, c'est clair que de dire une chose pareille ne le dévoile pas parce qu'il ne l'aurait pas dit sinon. Donc il peut très bien dire, je crains le Dieu. J'ai un Dieu. Si c'est vrai, alors il y a un frère, un d'entre vous qui va rester prisonnier. Vous allez rentrer chez votre père avec le blé que vous avez acheté et vous allez ramener votre jeune frère. Et à ce moment-là, on verra que si vous le faites, on verra que ce que vous dites est vrai. Et vous ne mourrez pas si vous faites ça. Et donc, ils ont été d'accord. Alors, le frère qu'il a bloqué en Égypte, c'était Shimon. Il sait à qui il a affaire. Il sait quand même que si tu laisses le couple Shimon et Lévi ensemble, ils vont mettre l'Égypte à feu et à sang. Et donc, il faut casser la paire en question. Donc, il a gardé Shimon. Et en vérité, il a dit l'un d'entre vous, etc. Et quand ils ont voulu partir et tout le monde est parti, il y a un des assistants de Yosef, qui sont en fait ses frères, ses fils, Ephraïm et Ménaché. Il y en a un, je crois que vous l'avez raconté, là, il a mis sa main sur Shimon. Il a dit, toi, tu restes. Et Shimon, il a dit, le Midrash dit que Shimon a dit à ses frères, cette main-là, c'est une main de chez nous. D'ailleurs, c'était des Bériotes, c'était des gens très très forts, très puissants. Taper si fort comme ça pour être. C'est une main de chez nous, ça. Le bon, il n'est pas fait. Il n'a pas pu poursuivre, mais il a bien reconnu que c'est une façon d'attraper les gens qui viennent de chez nous, celle-là. Alors, ils parlaient entre eux, les frères, ils parlaient en hébreu, enfin, je sais pas, la langue du cananéen, ils ne parlaient pas l'égyptien. Et Yosef, il a fait semblant de ne pas comprendre leur langue, il avait mis un traducteur entre eux. Mais lui, il entendait, il comprenait ce qu'ils disaient entre eux. Et le traducteur, c'était son fils Menaché. Il a entendu que ils se sont dit l'un à l'autre, Hachemi Manachim. On dit, il nous arrive quelque chose, c'est parce que nous sommes fautifs de ce que nous avons fait pour notre frère. On a vu combien il souffrait quand il nous a suppliés et on n'a pas écouté. Donc, ce qui nous arrive maintenant, c'est à cause de ça. Les fils de Jacob, ils n'arrivent pas à une tuile pareille sans que ça ait du sens. Et le sens pour eux, il était évident. Leur mauvaise conscience, elle les avait pas abandonnés. Et donc, ils savent très bien que on leur impose quelque chose. Alors, Reuven, il leur dit, vous avez dit, ne fautez pas avec l'enfant. Vous ne m'avez pas écouté. Voilà, maintenant, on nous réclame son sang, quoi. On nous réclame des comptes. Alors, le passouk dit que il ne savait pas que Yosef entendait ce qu'il disait, puisque Yosef avait mis un traducteur entre eux. Et du coup, Yosef, il a été touché de ce que il se disait. Il a dû aller s'isoler pour pleurer dans son coin. Il était quand même. Il est revenu. Et donc, il a pris Shimon, il l'a fait prisonnier, ostensiblement. Et Yosef a donné l'ordre à ses assistants, là, de remplir les sacs des frères avec le blé et de leur remettre l'argent qu'ils avaient amené, qui avait servi à payer le blé. Chacun dans son sac, il avait l'argent qu'il avait amené pour payer. Il leur a donné des vivres pour le chemin. Voilà. Et ils ont fait, les assistants ont fait ce que Yosef leur a ordonné de faire. Donc les frères sont partis avec leur histoire, et à un moment donné, Vaïftar, Aïchad et Sako, il y en a un d'entre eux qui a ouvert son sac. Alors Rachid dit, qui est-ce? Rachid dit, ben, celui qui a ouvert son sac, c'était Lévi, parce que c'est marqué un d'entre eux, celui qui est un alors qu'il devrait être en une paire, c'est Lévi. Lui, il est tout seul parce que Shimon n'est pas là. Il ouvre son sac pour aller nourrir son âme, et il voit son argent. L'argent est dans le sac. Alors il dit à ses frères, mon argent, il est de nouveau dans mon sac. Donc ils ont eu très très peur. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'Elohim veut de nous là? Parce qu'ils ont vérifié, ils avaient tous la même chose. Ils sont arrivés chez Yaakov. Ils lui ont raconté ce qui s'était passé, tout ce qui s'était passé. Il dit, le type là-bas, le seigneur de l'endroit, il a parlé très dur, il nous a parlé très durement. Il nous a accusés d'être des espions. On lui a dit, pas du tout, on n'est pas des espions, on est 12 enfants, et la même père, etc. Et on a dit, il y en a un qui est avec notre père, il y en a un qui n'est plus là. Et ils lui ont dit, voilà, alors le vice-roi, là en question, il nous a dit que pour nous défendre de cette accusation d'être des espions, ils nous ont dit, vous devez m'amener votre jeune frère. Et bon, c'est tout, et prenez vos affaires et partez. Et donc, ou bien on amène notre frère, À ce moment-là, je saurai, vous amenez vos frères, je saurai que vous n'êtes pas des espions. Ben sinon, et si c'est bon, vous pourrez vous balader dans toute l'Égypte, faire toutes vos affaires, faire le business que vous voulez faire. Et quand ils ont sorti leur sac, ils ont ouvert les sacs, ils ont vu qu'ils avaient tous cet argent. Et donc, eux et leurs frères, ils ont eu tous très peur. Le père, comme, et leur père, pardon. Eux et leur père, ils ont tous eu très peur. Alors, tout de suite, Yaakov a dit, mais vous, je suis complètement atterré, quoi. Yosef n'est plus là, Shimon n'est plus là, et vous voulez prendre Binyamin avec vous? Mais Allah yayukulana. Bon, alors voilà, toutes les tsarot, je les ai déjà eues. Alors, est-ce que c'est, il faut lire de nouveau le Allah comme Rivka le lui avait dit. Tes tsarot, c'est vraiment ce qui se, c'est Esav, Lavan et Yosef. Donc ça y est, qu'est-ce qui peut encore arriver? Alors Reuven, qui est toujours très 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 maladroit, il a dit à son père, écoute, moi je me porte garant que je ramènerai tout le monde. Si je ne le ramène pas, je ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes enfants à moi. C'est une bêtise. Et souvent, il est maladroit parce que quand il a voulu sauver Yosef, il l'a fait mettre dans un puits, mais il n'a pas pu le sauver complètement. Il pouvait pas. Ou bien tu dis clairement, je veux pas qu'on tue qui que ce soit, et je suis pas d'accord qu'on le tue ni qu'on le mette en danger. Non, il a cru que. Et là, on voit qu'il est maladroit. Il va être maladroit avec Bilha. Il a été maladroit avec Bila. Et c'est ce qui est écrit. Dans Chazal que.
Ça bizarre de dire à un grand-père pour appuyer ses petits-enfants s'ils ne reviennent pas.
Oui, c'est pas. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, mais.
Ça veut dire que c'est comme si ils l'ont dirigé, comme quand, c'est pas comme les gens qui vivent sur la vie, les
Oui,
enfants sont.
mais c'est ça. On ne dit pas une chose pareille.
L'engagement d'Yehuda n'est pas semblable.
Alors, attendez, Yehuda. Et Jacob a dit, Loyaret Bni, non, je ne laisserai pas, mon fils ne descendra pas avec vous, son frère est mort déjà, c'est tout ce qui me reste. Et s'il lui arrive malheur en chemin, le chemin que vous allez prendre, du coup, vous allez me tuer complètement. Bon, c'était non. Et donc maintenant, le problème, c'est qu'avec le temps, la famine était terrible, ils n'avaient plus à manger. Ils avaient fini de manger ce qu'ils avaient amené d'Égypte. Alors, leur père leur a dit, il faut que vous retourniez en Égypte pour acheter à manger. Ils ont dit, Yehuda lui a dit, le bonhomme, il a témoigné, quoi. Il a dit contre nous que vous ne me verrez même pas si vous n'avez pas votre fille, votre frère avec vous. C'est-à-dire, on ne pourra pas, c'est pas que vous pourrez essayer de me convaincre, vous n'arriverez pas jusqu'à moi. Donc, Yehuda a dit à Yaakov, si tu es d'accord d'envoyer notre frère avec nous, on y va, et on va te ramener à manger. Mais si tu n'es pas d'accord, alors on n'y va pas, ça ne sert à rien. Il a dit que nous, on n'arriverait même pas à le voir si le frère n'est pas avec nous. Alors, je sais pas, Vayomer Israël, du coup, c'est plus Jacob, c'est Israël. Il dit, mais pourquoi vous avez fait du mal, vous m'avez fait du mal de raconter que vous avez encore un frère, etc. Il leur dit, mais le type, il nous a interrogé sur d'où nous venions, est-ce que vous avez encore un père, est-ce qu'il vit, est-ce que vous avez un frère? Et on a dit tout ça. Est-ce qu'on pouvait savoir qu'il allait nous demander de descendre avec notre frère? En vérité, il ne leur a jamais demandé explicitement sur leur frère. C'est eux qui ont parlé. Il les a amenés à parler. Yehuda dit à Israël, alors maintenant, voilà. Voilà ce que Yehuda a dit à son père. Shilcha hana ariti, venakuma venelcha, envoie l'enfant avec nous, et il faut qu'on parte, pour qu'on vive et qu'on ne meure pas. Ni nous, ni toi, ni nos enfants. Et il a dit, Anochi ervenum, je garantis Binyamin. C'est de moi que tu l'exigeras. Et si je ne l'amène pas à toi, si je ne le présente pas, voilà, j'aurais fauté par rapport à toi. Et il lui a dit, si on n'était pas en train de pinailler, si on l'envoie, si on ne voit pas, on serait déjà de retour on aurait de quoi manger deux fois. Alors Israël leur a dit, voilà, dans ce cas-là, il faut que vous preniez il y a des petites choses qu'on peut produire encore en Eretz Kenan, et vous allez lui offrir ça en cadeau. Et vous allez reprendre l'argent, vous allez lui rendre l'argent qui vous avez trouvé dans vos sacs. Vous allez reprendre de l'argent pour acheter à manger à nouveau. C'est une erreur, je ne sais pas. Et vous allez prendre votre frère. Allez, revenez. Et que quel chaka eiten lachem rachamim. Donc, il a fait référence cette fois-ci à quel chaka qui vous donne, manifeste de la tendresse, que vous trouviez grâce aux yeux de ce bonhomme, qui vous rendent votre autre frère, et Binyamin. Et moi, ben, si ça va mal, eh bien, ben, tant pis, je suis fichu, quoi. Donc, ils ont fait tout ça. Ils sont partis, ils ont pris Binyamin et ils sont redescendus en Égypte et ils sont arrivés devant Yosef. Voilà, on va s'arrêter là parce que.